Le goût du monde, Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. Aujourd'hui, nous allons faire le tour du monde grâce à une des méthodes de cuisson les plus simples, peut-être, sans doute. L'une des plus anciennes en tout cas, douce et délicate, géniale. Pensez donc à ce gâteau de coquille aérien, cette galette de teff, les raviolis, les baos gourmands, cuisine goûteuse et gourmande et tout bénef pour les aliments. Cette cuisson, évidemment, c'est la vapeur. Bonjour Stéphane Gabrielli.
Bonjour Clémence.
Très concentré. Alors on a de la chance parce qu'on a une hôte de qualité qui est en train de fumer délicatement. C'est le vitaliseur de Marion. Donc comme un couscoussier, c'est une cuve, un panier au-dessus, un dôme.
Un couvercle en dôme surtout.
Un couvercle en dôme et qui j'adore parce qu'à chaque fois que je parle, j'ai l'impression qu'elle acquiesce à coups de petits coups de vapeur.
Une petite chaudière.
Donc vous êtes cuisinier Stéphane, chef formateur à l'école hôtelière Ferrandi à Paris, gourmand et auteur chez Albin Michel de plats gourmands vapeur douce, 120 recettes simples et bluffantes. Alors ça c'est moi qui l'ai ajouté, c'est pas dans le sous-titre, simple et bluffant parce que je suis un petit peu comme tout le monde. La vapeur sur le papier, c'est dur de rivaliser avec le juteux de la cuisson, avec le juteux du rôti, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier. Et bien pourtant quand j'ai lu votre livre, je me suis un peu régalée par omission. Alors je voudrais que vous nous expliquiez déjà cette vapeur, de quoi s'agit-il quand on parle de vapeur douce ?
Alors en fait, on parle de vapeur douce parce que dans l'enceinte du tamis et pour la cuisson, on a une vapeur qui monte en température mais qui est en dessous des 100 degrés. Donc voilà, par rapport à une cocotte minute où on dépasse les 110 degrés, donc c'est pour ça qu'on appelle une vapeur douce.
D'accord, donc c'est une vapeur qui va caresser les aliments.
Oui, voilà, c'est ça. Et surtout, par rapport au vitaliseur, en fait, le couvercle étant dôme, ça permet de faire une circulation de l'air comme sur un four à chaleur tournante. Donc on n'est pas sur une vapeur qui stagne. Comme le couvercle aussi se soulève par rapport à la pression de la vapeur, ça évacue le surplus de vapeur.
D'accord.
Donc et la température.
Donc pour bien se rendre compte, on a un tamis qui est droit, voilà. Et au-dessus, donc comme une cloche,
cloche en dôme.
Qui va se remplir, qui va tourner. Comment vous êtes tombé dans la vapeur, vous ? Parce qu'on ne tombe pas comme ça un jour, hein, mon Dieu, la vapeur.
Non, parce qu'en fait, j'ai testé, étant bien sûr chef de cuisine formateur, on a testé beaucoup de modes de cuisson, le sous-vide, la basse température, la réaction de Maillard. Et je voulais quelque chose qui me permette d'avoir le goût des aliments, surtout en toute simplicité, le produit pour le produit. C'est-à-dire qu'en cuisine, on cuit dans de l'eau, dans une anglaise, on cuit dans les fours à vapeur. Mais je voulais vraiment quelque chose de très simple.
D'accord.
Et en fait, on est tombé sur une émission à la télévision avec le professeur Joyeux, qui parlait justement de cuisson saine et d'aliments sains. Et,
voilà. Et de vapeur douce.
Et de vapeur douce, justement, parce qu'il avait, sa femme avait déjà fait un livre ou quoi. D'accord. Et il a parlé du vitaliseur, donc du coup, on s'est intéressé un peu plus à ça.
Donc évidemment, vitaliseur, c'est un ustensile qu'on va utiliser, mais bon, voilà. C'est un ustensile qui permet d'avoir de la vapeur douce. On peut préciser tout de suite que la vapeur, on l'obtient avec bien d'autres ustensiles. Si par exemple, je n'ai qu'un panier en bambou ou une couscoussière.
Oui, on obtient la vapeur pareil. C'est en fait, faudra juste adapter les temps de cuisson par rapport à son ustensile. Voilà. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est les cuiseurs vapeur à étage et en plastique. Voilà, parce qu'on a des retombées, des liquides de cuisson qui vont sur les aliments et ça, c'est pas bon. Faut rester sur un niveau.
Un niveau.
Voilà. Mais avec le couscoussier ou quoi, voilà. Après, vous allez juste adapter les temps de cuisson. On sera un peu moins précis par rapport à notre avion de chasse, mais on y arrivera.
C'est ça. Alors, vous m'avez dit c'est un avion de chasse.
Ouais, c'est un avion de chasse.
Cet ustensile, alors que bon, moi, j'étais plutôt dans un bimoteur.
Non.
Non, l'avion de chasse, on traverse les nuages, là, elle fume. Enfin non, elle vapeur, elle vaporise. J'en vois quand même certains tendre le nez. On ne peut pas s'empêcher de penser vapeur et tout de suite, c'est quand même cette image d'eau. De trop plein d'eau, une carotte pleine d'eau à la vapeur. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ceux qui tordent le nez ?
Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'en fait quand on parle de la vapeur, on parle d'un produit qui est détrempé, qui est mouillé, qui n'a pas de goût, qui est insipide, qu'on a délavé en fait. Hein. Mmh. En fait pour les gens, la vapeur c'est une cuisson de régime. C'est-à-dire
oui, c'est
tout de suite tu manges à la vapeur, ah oui mais tu fais le régime.
Oui.
Mais malheureusement, c'est l'image qu'il y a, mais c'est pas du tout ça, en fait. Et là, vu qu'on a un couvercle qui est en dôme, en fait, l'eau ne retombe pas sur les aliments. Donc, on peut le faire avec, si on a des paniers en bambou, on met un torchon dessus, ou si on a un couvercle plat, justement, pour que l'eau soit absorbée par ce torchon. Et on a des rendus de cuisson qu'on adapte par rapport au temps de cuisson qu'il y a sur le livre.
Donc, ma couscoussière, ça marchera aussi. Je mets
oui,
un
vous allez être, voilà, ça va être plus long dans le temps de cuisson, mais vous allez y arriver.
Et en termes de saveur, parce que c'est ça qui est étonnant. Parce que vous m'avez dit, non, la vapeur, vous allez voir, la saveur est est là. Voilà. Et la texture
c'est,
aussi.
C'est une concentration, en fait, comme on ne dégrade pas au niveau de la montée en température les enzymes et les fibres de l'aliment, on garde toujours cette mâche de l'aliment pour des carottes, pour des poireaux, même pour des pommes de terre. Un jour, j'avais fait des pommes de terre à des enfants et je leur avais amené. Et quand ils ont vu arriver, ils ont dit « Mais elles sont crues, chef, vos patates ?» Et non, en fait, elles étaient cuites parce qu'en fait, les couleurs sont préservées parce que, justement, la montée en température, et vu qu'on ne dépasse pas les 100 degrés, autour de l'aliment, ça permet qu'on garde un maximum, on fixe les sels minéraux, on fixe les vitamines, on fixe énormément de choses qu'il y a dans le végétal.
D'accord. En même temps, c'est pas innocent parce que c'est quand même, je le disais au tout début de l'émission, la cuisson, une des méthodes de cuisson les plus vieilles du monde, les plus anciennes. Je crois qu'on a retrouvé d'ailleurs dans le désert une plaque qui était trouée. Et donc, on est là à l'origine du couscous, je pense.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est vraiment très ancien, en fait. Hein. C'est parmi les premiers modes de cuisson qui ont été réalisés et qui ont été mis au goût du jour.
D'accord. Et d'ailleurs, Stéphane, nous avons en ligne avec nous Nordine Labiade, qui est le chef cuisinier du restaurant à mi-chemin. On est à Paris, dans le 14e arrondissement. Bonjour Nordine.
Bonjour Clémence.
Bon alors, couscous, des
petits trous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Nordine.
Oui, j'ai la chance que vous vous connaissiez.
Oui, oui. À un moment donné, on a fait tout le temps, les gens me disent, mais c'est juste qu'un simple couscoussier. J'ai dit non, mais il ne faut pas ridiculiser le couscoussier quand même. C'est quand même un beau produit et on peut faire des belles choses avec. Donc là, je trouve que c'est bien, c'est intéressant.
Donc on parlait, Nordine Labiade, de cet instrument et de cet ustensile qui permet de cuire la semoule. Je pense que c'était d'abord la céréale qui a été cuite avant toute chose à la vapeur.
Bah avant, ils cuisaient la céréale entière ou légèrement concassée en vapeur. Et ça permettait d'économiser les sources de chaleur. Il n'y avait pas beaucoup de bois dans les régions et les gens ne font pas beaucoup de feu. Donc il y a une seule source de chaleur et ça permet de cuire des éléments en même temps. C'était économique avant tout. Et les vitalisers de Stéphane, moi je m'ai commandé un avion de chasse pour 8 personnes. Je vais le recevoir bientôt. Et donc ce qui est agréable, même quand elle est vide, t'as l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, avec les couvercles en dôme, les vapeurs, ça tombe sur le côté et ça retourne en bas sans qu'il tombe sur les éléments. Donc il y a un côté sain et les gens qui n'aiment pas les cuissons vapeur à cause de la flotte, parce qu'ils ont ces billes d'air expulsées dans des fours vapeur et tout. Là, ils vont se régaler avec une chair aux légumes tendre et pas mouillée.
Et pas mouillée. J'ai envie de dire, Nordine Labiade, que la vapeur, c'est un peu l'identité du couscous, non? Sans vapeur,
oui.
Pas de couscous.
Les couscous, les paniers vapeur, mais les Romains, on a trouvé des ruines dans les ruines romaines, les passoires du couscous trouées avec une feuille de palme. Et là, ils ont fait la cuisson vapeur. Et à la base de ça, dans les Romains, on parlait d'autres choses, c'est pas de la cuisine, mais les hammams, c'est une source de vapeur pour se laver, se baigner, humidifier l'air. Pour la peau, c'était une sorte de gros chaudron avec un cheminée qui dégage les vapeurs vers une pièce. Et si un autre, les Romains, ils ont beaucoup inventé et utilisé les vapeurs longtemps.
Oui, c'est ça qui est génial en fait. Quand on parle de vapeur, au début, on a l'impression de se concentrer sur une carotte et en réalité, on a vraiment des fenêtres sur le monde qui sont en train de s'ouvrir. Stéphane Gabrielli, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous m'avez demandé aussi de vous mettre au défi de cuire quelque chose dont je pensais qu'à la vapeur, on ne pouvait pas le cuire. Et là, on va vous retrouver, Nordine, également, à savoir la viande et les brochettes. Alors, est-ce que vous pourriez m'expliquer? Puis après, vous me parlerez des boulettes, Nordine, parce que je crois que vous avez des boulettes en commun, non? Alors, qui parle le premier? Stéphane, peut-être.
Moi, je me suis inspiré j'avais fait sur mon livre, il y a des recettes de boulettes. Voilà, ce qui était le problème qu'il y avait, c'était le visuel. Donc, moi, je suis arrivé à le résoudre avec ma recette. Et Nordine a sorti un magnifique livre. Et je ne pouvais pas rester insensible aux recettes de kefta et des recettes de boulettes. Donc ce week-end, j'ai testé quelque chose que je lui ferai découvrir lors de notre battle.
Et donc on a justement, parce que ce que je voudrais savoir, Nordine Labiade, vous qui faites, je crois que c'est des boulettes de veau aussi, vous faites aussi à la vapeur des boulettes d'herbe, des boulettes vertes.
Oui, ça cuit des vapeurs. Oui, ça cuit tout en vapeur.
Ouais, mélangé aussi avec du fric, donc avec ce blé vert.
Oui.
Qu'est-ce que ça apporte l'un et l'autre, justement, cette vapeur par rapport à une cuisson, par exemple, dans une sauce, comme on aurait tendance à le faire, ou dans une poêle avec de l'huile. Quel est l'avantage de la vapeur en termes de texture, peut-être, Stéphane, et après je vous demanderai, Nordine.
Alors pour moi, ce qui est important, la vapeur, ce qu'elle va apporter, c'est que déjà, elle va dégraisser l'aliment, elle va lui enlever quelques impuretés qu'il peut y avoir, des toxines qu'il peut y avoir, suivant la provenance des aliments, et elle va apporter surtout du moelleux. et du goûteux. Donc voilà, c'est ce qui est important. Le visuel, on a un problème sur le visuel, mais Nordine, avec ses boulettes qui sont magnifiques, il a très bien rééquilibré. Moi, je l'ai rééquilibré avec le livre en faisant des petites panures de sésame, des petites panures de coriandre, justement pour pas qu'on ait ce problème de visuel.
Donc, on le relaie dans une chapelure aux pistaches ou sésame à la fin, ou les donner un peu de croustillant à la fin. Ça peut aussi venir. Mais je vous parlais de mes boulettes. En fait, les boulettes, les herbes, elles vont se détendre. C'est comme vous prenez un tisane. Un tisane, il y a plusieurs sortes de thé ou d'herbes. Quand on boit, on a un goût concentré des 5 éléments qui sont dans le tisane. Avec ces boulettes aussi, il y a 6 herbes différentes. Et quand, avec les vapeurs, les herbes sont détendues, ça infusion. Et donc, entre les éléments, les goûts ils se marient entre eux. Et s'étendre, on a l'impression de goûter dans un seul goût, parce qu'ils ont humidifié, ils ont échangé le parfum entre les éléments grâce aux vapeurs. Et quand on va croquer, on n'a pas juste la nette, les ciboulettes ou les persils ou l'ail. On a le goût comme un tisane, on a le goût rassemblé.
Mais une tisane gourmande dans laquelle on croque. Généralement, quand on vous voit justement, Stéphane Gabrielli, quand vous proposez vos boulettes, vos kefta, alors incroyable aussi, vous avez fait une épaule d'agneau. Alors moi, je voudrais voir une épaule d'agneau cuite à la vapeur.
Ah oui, non, c'est...
cuite à la vapeur. C'est très mystérieux quand on croque justement, parce qu'il n'y a pas de croustillant. Mais on a quoi comme type de mâche, du coup? Comment est-ce qu'on réagit?
En fait, on a une mâche qui est fondante, en fait. Comme une épaule d'agneau que vous faites cuire 3 heures au four en cocotte à basse température dans un bouillon ou quoi. Donc, vous avez toujours cette mâche de filandreuse de la viande qui reste très moelleuse. Donc, le côté croustillant, on l'a moins. Donc, l'avantage, moi, ce que je voulais faire avec une cuisson longue, c'était qu'on concentre les saveurs. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup de marinades avec le zatar, le sumac. Je travaille avec des épices à ma guise qui sont mon partenaire ou qui fait des mariages d'épices qui sont magnifiques, justement pour relever ce côté plat. Et comme disait Nordine, en fait, dans son infusion, ça fait un seul. En finalité, on n'a qu'un goût. Et c'est ça qui est fabuleux, parce que on a plein de petits peps, et en fait, sur de la finalité, il n'y a rien qui domine une autre herbe par rapport à une autre. En fait, c'est une harmonie. D'accord. Et voilà, ça c'est assez fabuleux.
Moi, ce que je trouve fabuleux aussi, c'est de se dire qu'avec un instrument, un ustensile, on peut faire tout un plat. Quand on décompose le couscous, par exemple, on va avoir la cuisson des légumes. Là, on est d'accord l'un et l'autre, Nordine Labiade?
Moi, franchement, je voulais saluer Stéphane Gabrielli pour cette initiative d'amener ces cuissons à vapeur vers nous. Car tout le monde cherche qu'est-ce qu'il y a plus compliqué sur Terre pour nous montrer. Et là, lui, il nous montre quelque chose d'essentiel, basique et simple. Techniquement, la technologie, elle a travaillé encore pour encore simplifier les cuissons et retourner vers un cuisseur vapeur avec une dôme rond. Dans tous les pays chauds, vous regardez l'architecture, il y a des dômes. Les dômes, c'est pour la chaleur qui elle monte, elle se rafraîchit, elle retombe en bas. Donc c'est pour rafraîchir aussi l'air où on habite. Donc le dôme, c'est vieux aussi comme forme dans les pays chauds. Donc je salue son initiative de mettre ça à la une et défendre son outil qui est vraiment basique et écologique et sincère. Mmh. On n'a pas besoin d'électricité, on n'a pas besoin de technologie, on n'a pas besoin de son smartphone.
Une bassine, un tamis, du feu.
Gaz ou feu de bois même dans son cheminée.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Tout le temps. Près de la nature.
Ouais, Stéphane Gabrielli.
Je l'ai fait justement en Corse, hein, où on n'avait pas d'électricité, on l'a fait au feu de bois. Hein, donc voilà.
Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas.
Moi, je peux le transporter partout. Non, mais voilà ce que je voulais dire, où tout instrument maintenant a une obsolescence et on est dans la technologie pure, avec un assistana pur de tout. Si les gens ne sont pas assistés, ils sont perdus. Donc on leur donne des cuiseurs où il y a des clés USB qu'on vient et qu'on assiste ou quoi. Et voilà, mais je trouve que c'est fort dommage parce que c'est un outil aussi qui fait peur à certains chefs. Parce que c'est tellement simple, ils sont tellement dans les sondes, la température exacte, le précis ou quoi, qu'en fait ça les intéresse pas. Alors que je peux vous dire que c'est vraiment simple. Une fois qu'on a compris son mode de fonctionnement, on peut ouvrir le couvercle 10 fois. Une fois qu'on a tout compris, même des gens amateurs, c'est pour ça que moi j'ai voulu faire ce livre de recettes, parce que j'avais 5 ans de connaissances où j'ai retourné de l'escargot au foie gras. Énormément, je suis à plus de 300.
Il y a une palette incroyable de choses qu'on peut faire à la vapeur.
Le riz de veau, voilà, plein de choses. Je reste un carnassier. Une fois que j'ai tout retourné, j'ai dit, moi, il faut que ça puisse débarquer dans les foyers, que les gens puisse, en toute simplicité, faire quelque chose qui soit gourmand et qui soit très simple en utilisation.
Clairement. Voilà. Et ce qui est super, en fait, moi j'ai envie de vous dire merci pour une chose, c'est juste parce que cette cuisson à la vapeur, on l'oublie complètement. Et c'est vrai qu'elle a, en tout cas, de ce côté de l'hémisphère, pas du tout ailleurs, mais de ce côté de l'hémisphère, une espèce de côté un petit peu, désuet. On ne sait pas trop quoi en faire de cette vapeur. Vous nous avez aidé à l'apprivoiser.
Rechauffer son produit, son élément de la veille dans le cuisseur vapeur ou en couscoussière, vous allez voir les qualités qu'il garde. Quand j'étais petit, on réchauffait tout dans le passoir des couscoussières à vapeur.
Ouais.
Et c'est vraiment très important d'utiliser même pour réchauffer un élément.
On réhydrate le produit, des keftas, des boulettes, de la semoule, des légumes ou quoi, on le réhydrate et on lui redonne une nouvelle vie. Donc voilà.
Du coup, c'est sûr. Même les babouches, Nandine, vous m'avez dit en préparant cette émission, la babouche est un peu sèche au soleil, pof, à la vapeur.
Elle a pris l'eau de mer, elle a séché.
Et voilà, elle est comme neuve, la babouche.
Nous, les cuisiniers, on aime bien rigoler parce qu'on a un métier très sérieux, très stressant. On aime bien rigoler.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
D'un autre monde, téléphone sur RFI, bienvenue. Si vous nous rejoignez, la marmite fume, des volutes de vapeur pour cuire des plats gourmands, vapeur douce évidemment, avec Stéphane Gabrielli, auteur de recettes gourmandes, chef formateur à l'école Ferrandi à Paris. Étonnante vapeur bien plus présente qu'on ne pourrait le penser a priori, hein, c'est ce qu'on découvre depuis le début de cette émission. Pensez la vapeur dans la cuisson du thau, du riz, de la galette de teff, la base de l'injera, dans les cuisines éthiopiennes et érythréennes, les galettes fermentées, en Inde aussi les dosas, ça donnerait presque le tournis, en fait, quand on pense à toutes les possibilités qu'on a avec cette vapeur, Stéphane Gabrielli.
Oui, tout à fait. En fait, c'est sans limite. Hein. C'est ça, c'est qu'on peut voyager tout en restant chez soi par rapport aux produits, par rapport aux épices. Et on voit que partout dans le monde, en fait, on utilise la vapeur.
Clairement. Voilà. En plus, alors, on était dans le couscous. Dans le couscous, il y a des pois chiches. Et évidemment, qui dit pois chiche dit hop, vapeur, pois chiche. On a quoi avec ça?
La semoule, voilà. Donc,
du houmous aussi. Ouais. Est-ce que tout ça, on peut le faire avec un cuit-vapeur, avec un vitaliseur?
Les lentilles, les féculents, le riz, voilà. C'est ça qui est génial, c'est que d'un même appareil, en fait, on a un panel de cuisson sans limite.
Ouais, donc évidemment, je vais vous poser la question. Si je pars sur une île déserte demain, j'emporte quoi?
Un vitaliseur. Alors, j'ai une fan qui m'a écrit hier et qui m'a dit, si je pars sur une île déserte, j'amène mon livre de recettes, un vitaliseur et vous, chef.
Et le chef. chef. Bon, d'accord. Bon, bah, vous venez avec moi d'abord, j'avais dit. Alors, évidemment, donc là, on était en Afrique du Nord. Il y a en Afrique, évidemment, aussi, avec beaucoup de manioc. On va en parler puisqu'on va écouter Alessandra Montagne et le chef Alexandre Belaola tout à l'heure. Mais d'abord, on reste un petit peu en Asie. On va du côté de l'Asie. Bonjour, André.
Bonjour.
André Tad, vous êtes cofondateur des restaurants Panda Panda et Dumpling Queen à Paris. Alors, on est dans le 10e et dans le 19e. Bientôt Tiger Tiger aussi qui devrait ouvrir ses portes. Alors,
exactement.
On goûte chez vous un peu de Hong Kong, de Taïwan et de Chine en savourant des raviolis et des bao. Alors les bao, c'est des nuages délicieux. Je voudrais savoir un petit peu quelle est la place de la vapeur dans la gastronomie hongkongaise, taïwanaise, asiatique, en tout cas de ce côté-là, chinoise, André.
Alors la vapeur a une place super importante. C'est une cuisson qui est ultra populaire en Chine, beaucoup plus par exemple que la cuisson au four, par exemple, qu'on utilise beaucoup nous en Europe. Et voilà, on l'utilise vraiment, que ce soit chez soi, au restaurant aussi beaucoup, notamment à Hong Kong. Vous avez les fameux dim sum hongkongais, qui sont des petits... Alors il y a de toutes sortes, ça peut être soit des raviolis, des petits tapas, qui se mangent souvent soit le matin ou à l'heure du tea time hongkongais. Et voilà, et c'est beaucoup utilisé. Si vous baladez dans les rues d'Hong Kong, vous allez voir plein de vapeurs avec des paniers superposés, fumants. Voilà, donc c'est une place prépondérante dans la cuisine chinoise.
Vous avez peut-être entendu, là, il y a des bruits d'ustensiles un petit peu parce que Stéphane Gabrielli vient de sortir un poireau, donc tout juste cuit, en direct, qu'il couvre d'un petit filet d'huile d'olive à l'instant. Et à sa droite se trouve une petite boîte de Dumpling Queen parce que vous l'avez rencontré, Stéphane.
Tout à fait. On a échangé un peu sur la cuisson vapeur et voilà, et je lui expliquais que nous, on l'utilisait notamment pour faire nos xialong bao qu'on fait au restaurant et aussi nos guabao qui sont des petites brioches taïwanaises qu'on
comme
fait
des
également maison chez nous. Ouais, tout à fait.
Hein,
c'est comme une petite brioche ouais, où dedans, c'est une brioche qui est ouverte. Donc c'est un pain qui est tout moelleux, tout nuageux. Et nous, on s'amuse en fait à y mettre de la poitrine de porc marinée, on s'amuse à mettre des aubergines braisées, du poulet également. Voilà, donc il y a plein de combinaisons possibles et c'est un plat qui est très populaire à Taïwan et qu'on mange souvent dans les marchés de rue. Voilà, donc vous pourrez trouver ça dans nos restaurants également.
Ouais,
voilà.
De toute façon, vous allez pouvoir voir sur la page du Goût du Monde parce qu'on va prendre en photo parce que le guabao, Stéphane en a apporté un, donc on voit bien. Donc cette brioche très souple en fait, enfin c'est une galette pliée en deux, on dirait, qu'on peut farcir du coup. On est d'accord?
Tout à fait, exactement. C'est une petite brioche qui est pliée en deux et voilà, qui est blanche, toute blanche. Et qu'on travaille nous-mêmes, il y a une pâte, il y a un coup de main à avoir, en fait, pour enlever l'air de la pâte. Et on l'a fait monter ensuite à l'étuve pour que la pâte, la levure prenne. Et derrière, on la passe à la vapeur à peu près 5-6 minutes pour la faire cuire.
D'accord. Stéphane Gabrielli, vous qui les avez en main, qui avez ce guabao en main, est-ce que vous pourriez nous dire quel est votre ressenti?
Bah, c'est magnifique, c'est... C'est une très très belle texture en fait, c'est très soyeux, c'est très brillant, voilà, c'est une forme un peu de bouche, donc on a vraiment envie de mordre dedans. Ceux-là, ils sont nature, mais voilà, on voit que c'est un très beau produit. Déjà, quand le produit il est comme ça, que vous l'avez en main et que vous avez une brillance, vous avez une texture, vous dites déjà là on y est. Après, la garniture va faire le reste, mais au moins le socle il est là.
Oui,
donc bravo, bravo pour ça.
Ouais, c'est le jeu aussi entre garniture qu'on peut rôtir, qu'on peut pour le coup avoir une garniture avec une cuisson totalement différente. Qui est intéressant pour ces guabao, André Tan.
Tout à fait. Donc le pain est cuit vapeur et derrière la garniture, nous on va s'amuser à venir y mettre de la viande braisée, on va y mettre également, on a du poulet frit également comme à l'intérieur pour le côté un peu plus gourmand. On va s'amuser également à rajouter des petits pickles pour ajouter un petit côté acidulé, un peu sucré. Et tout ça s'accompagne également de sauces qu'on fait nous maison qui sont principalement des réductions en fait qu'on va récupérer du braisage des aliments, donc soit de la viande ou des légumes, et on va les faire épaissir pour justement travailler une sauce qui va venir en fait jouer un lien entre la garniture et le guabao vapeur. Voilà.
Ce que vous avez parlé comme si on connaissait tous, c'est xialongbao, je sais même pas si je prononce correctement. Alors c'est des raviolis qui sont eux garnis d'un petit bouillon, donc il faut les manger en faisant une petite ouverture pour que le bouillon tombe dans la bouche. Qu'est-ce qu'apporte la vapeur sur la cuisson des raviolis comme ceci?
Alors oui, effectivement, le xialong bao, vous avez très bien expliqué, c'est un petit ravioli qui a la spécificité d'avoir un bouillon à l'intérieur. Donc un bouillon qu'on fait maison, qu'on vient bloquer ensuite avec de la agar-agar en fait pour le solidifier, pour faciliter le pliage. Une fois que le pliage il est fait, effectivement, on va le mettre au panier vapeur, pareil, 5-6 minutes. Et tout l'avantage de la cuisson vapeur dedans, c'est que ça va permettre en fait de garder de ne pas assécher le produit, de ne pas sécher le ravioli. Et justement, ça va permettre au bouillon de rester en fait à l'intérieur du ravioli, parce que la vapeur d'eau va garder le bon taux d'humidité, va permettre au ravioli de rester vraiment humide et au bouillon de d'éclater en bouche en fait au moment de la dégustation.
Et de garder, j'imagine aussi, Stéphane Gabrielli, la fraîcheur de la farce. Parce que du coup, on va avoir à l'intérieur de cette pâte, il doit y avoir une osmose entre la pâte et la farce. Et le tout, une fois à la vapeur, ça permet vraiment d'avoir une osmose, je crois, c'est le meilleur mot.
Oui, c'est ça. C'est comme si nous, on faisait un pot-au-feu et qu'on le mettait dans quelque chose. Mais là, c'est encore plus subtil. Non, mais c'est ça. Il y a eu le pot-au-feu au Vietnam. On fait le feu parce que j'ai retravaillé le feu. Voilà, c'est que la cuisine, à un moment donné, elle se reconnecte. Donc voilà, en fait, il y a juste des mauvais cuisiniers, des mauvais ingrédients. Voilà.
Non, des curieux, des gourmands.
Voilà, mais je trouve que c'est fabuleux. Déjà, elles sont très belles. Déjà, on voit l'aspect, on voit que c'est comme un bonbon.
Oui, parce que vous nous avez apporté un salon beau.
Ouais. Donc, ils sont très beaux. On voit que c'est vraiment du travail d'artisan, hein, parce qu'il y a un peu de farce qui dépasse. Donc on voit vraiment que c'est de l'artisanat, c'est l'orfèvrerie culinaire, je trouve. Et ça, c'est très très beau.
Ouais, c'est magnifique. Tout
ouais,
à
voilà.
Fait.
Donc du fait de le cuire à la vapeur, donc on a quand même une montée en température assez importante, assez rapide. On va pas détremper, on va pas être en surcuisson, et dedans, vu que ça transperce au niveau de la pâte, que c'est conducteur, on va avoir quelque chose qui va cuire et qui va être fabuleux.
Ouais, et au niveau de la farce, André-Tan, est-ce qu'on met beaucoup d'herbes, beaucoup de saveurs différentes qui vont se retrouver et se distinguer quand on va pouvoir croquer dans la farce? Comment est-ce qu'opère la vapeur?
Oui, tout à fait. C'est sur la farce, on va vraiment la travailler en amont pour vraiment lui donner en fait un peps, un goût. Et nous, on la travaille avec du cochon fermier. Donc ça, c'est pour la version un peu classique, hein, cochon fermier. On va y rajouter du gingembre, on va rajouter de la ciboulette, on va rajouter de l'huile de sésame, un peu de sauce soja. Et tout ça, on va la laisser travailler, en fait, pour que, justement, la viande, en fait, s'imprègne de tous ces arômes, de tous ces parfums, de toutes ces herbes. Et justement, pour que la cuisson soit vraiment très subtile, pour vraiment juste cuire comme il faut la viande à l'intérieur et pour libérer les arômes, vraiment toute la fraîcheur des arômes en fait en dégustation.
Alors là, je suis d'accord, la fraîcheur des arômes, là, je dis. Stéphane Gabrielli a fait chauffer donc des keftas, je crois, avec des herbes dedans. Expliquez-nous un petit peu. On prendra en photo évidemment pour faire partager.
Non, mais voilà, c'est un mélange. Voilà, Nordine a fait un super livre sur le couscous où il a revisité les keftas et j'ai pris un peu de son savoir-faire, mélangé avec mon savoir-faire qu'on a mis à la vapeur. Donc beaucoup d'épices, parce que moi je travaille les épices. Mais pas le côté piquant, en fait. C'est le côté très aromatique.
Il y a vraiment parfumé.
Oui. Il y a vraiment un gros problème. C'est que sur les épices, on a vraiment de l'astringence, de l'amertume quand c'est de mauvaise qualité. Et en fait, on les délaisse à un moment donné parce que c'est pas ça le rôle de l'épice. Le rôle de l'épice, il y a deux rôles qui sont importants. Bien sûr, avant, c'était pour la conservation de l'aliment, tuer les bactéries. Comme on n'avait pas de frigo, voilà. Mais il y a aussi le côté aromatique pour voyager. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est que quand on a des épices de qualité, on n'en met pas plus. On met juste ce qu'il faut et on a des arômes qui sont assez fabuleux. Donc, on a 5 épices dans ces keftas, du coriandre, on a du persil, on a de l'agneau. Et voilà, et de là, on a dit, mais on va faire une kefta à la vapeur.
Mais ça sent, là, j'ai même pas besoin de goûter, parce que, enfin, je vais goûter, j'espère.
Oui,
non, mais ça sent délicieusement bon. On a le poireau et un salsifis. Alors, salsifis, c'est un peu un légume que d'ordinaire, on n'aime pas trop parce qu'il faut l'éplucher, ça noircit les mains, c'est difficile. Alors là, vous le coupez.
Voilà, c'est parmi ces tubéreux anciens qu'on veut plus, et surtout le salsifis de la cantine, celui-là, il est banni, salsifis en conserve, alors que je trouve que c'est un fabuleux tubéreux, et on a le goût pour le goût, en fait, la texture pour la texture de ce salsifis qui a besoin de rien, qui suffit à lui-même en cuisson vapeur. Il y a une chose aussi qui est très importante en la cuisson vapeur, c'est qu'on sale pas les aliments, en fait. C'est ça aussi, donc c'est très bien par rapport à l'organisme, on mange déjà trop de sel, trop de sucre, on enlève aussi tout le sel. Donc,
et en termes de santé, c'est super.
Ouais.
Merci beaucoup. André-Tan, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On mettra sur la page du Goût du Monde, évidemment, Dumpling Queen, Panda Panda et Tiger Tiger bientôt, toute une aventure.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et puis, c'était vraiment un grand plaisir de découvrir vos produits. Puis, on va se revoir parce que je trouve que c'est de l'artisanat. Non, mais c'est de l'artisanat où justement, où tout le monde est un peu perdu, où on ne sait plus où c'est qu'on va. On perd l'identité culinaire de chaque pays. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme vous qui font voir qu'une cuisine importée peut être une cuisine de qualité.
Tout à fait. Et en plus, Stéphane Gabrielli, il y a une recette de bao dans votre livre.
Oui, je me suis battu pendant un an.
C'est un défi.
Oui, c'est un défi parce que ma femme est et vietnamienne. Donc en fait, elle voulait que je revisite un peu les plats de son pays, parce qu'on sait que le pot-au-feu, je fais le feu. Donc voilà, il y a une grosse communauté française qu'il y a eu au Vietnam. Donc voilà, je me suis amusé à revisiter quelques plats. Et le bao, ça a été le challenge, à travailler avec des farines bio, parce que je travaille des farines vivantes aussi, ce qui est important pour moi. Voilà, et on a mis 6-7 mois à mettre la recette. Et beaucoup de gens m'ont demandé la recette, et j'ai voulu vraiment mettre la recette sur le livre, qui est vraiment différent par rapport... à une texture, mais qui reste quelque chose qui est assez intéressant.
Donc on a vraiment l'aspect brioche qu'on retrouve dans le bao, parce que tout le monde ne connaît pas. Le bao, c'est vraiment une brioche blanche, qu'on pense d'ailleurs souvent faite avec de la farine de riz, alors que j'ai appris grâce à André, s'il est toujours là, que c'était de la farine de blé, et qu'on a vraiment une brioche qui est, elle, fourrée, contrairement au guabao, qui est une galette.
Voilà, mais à la base, on part sur la même pâte, en fait. C'est ça, voilà. C'est juste qu'après, le façonnage change. Et le fait de cette street food qui est fabuleuse dans toute l'Asie ou quoi, où vous mangez des choses de qualité. Ouais, voilà, ouais. Que vous mangez des choses de qualité qui se résument pas qu'à des choses riches en matière grasse et indigestes. C'est ça qui est fabuleux. Donc voilà. Et c'est justement, c'est d'avoir dérivé sur un même produit, quelque chose de différent.
Ouais. Je vous propose quand même d'écouter un petit peu Alessandra Montagne et Alexandre Bellaola s'extasier justement en parlant de vapeur, bien sûr, évidemment.
On râpe le maïs, mais on mélange avec un peu d'arachide. Oh, on cuit enveloppé dans des feuilles de bananier.
Ah bah ça, j'ai au Brésil, mais c'est sucré, c'est mingau.
On peut sucrer,
ah,
n'est
pas
de bon
sucre. Avec, on râpe le maïs, on met du lait de coco, du sucre, et ma grand-mère, elle était la grande spécialiste de ça. Et elle met ça en papillote fermée dans la et cuit à la vapeur comme ça. Ay, mais c'est d'une merveille, mais rien que quand on ouvre la papillote, cette odeur de maïs avec les feuilles de banane.
Mon Dieu. Donc Alessandra Montagne, alors à cette émission là, on était dans la gourmandise absolue. Alors là, je vois se diriger vers moi Stéphane avec la cafeté. Donc en direct, je vais goûter la cafeté. On enlève le masque un petit peu. Alors, je ne sais pas, vous devez entendre, mais effectivement, il y a un petit peu de mâche, donc c'est délicieux, c'est super bon.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
It's Oh So Quiet de Björk, évidemment, et Oh So Délicieux, j'ai envie de vous dire. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde, votre émission culinaire. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire le tour du monde sur un nuage délicat de vapeur avec les conseils et les bons produits de Stéphane Gabrielli, chef formateur et auteur chez Albin Michel de plats gourmands vapeur douce. J'ai qu'une envie là, j'ai eu la chance de goûter cette kefté qui est incroyable parce qu'on sent vraiment les herbes se distinguer et toutes ces saveurs combinées. Et en même temps, vous disiez la tisane tout à l'heure, mais j'ai envie de dire oui pour le goût, mais sinon en termes de mâche, en termes de tout ça, de tout ce qu'on a dans la bouche qui se réveille, on n'est pas du tout sur une saveur unique, on est partout quoi. Et qu'est-ce qui explique ça justement? C'est la vapeur, c'est
oui,
l'effet vapeur.
En fait, si vous voulez, c'est comme quand vous allez dans un sauna, en fait, vous avez des pores et en fait, vous avez une hydratation.
Hammam.
Oui, dans un hammam, oui, pardon. Dans un hammam, en fait, vous avez une hydratation qui se passe et en fait, dans l'aliment, c'est ce qui se passe complètement aussi. C'est-à-dire en plus là, ce qui est important, quand on met quelque chose en cuisson vapeur pour une viande ou quoi, c'est de la remise en température. Mais ça, en cuisine traditionnelle, c'est ce qu'on fait. On sort pas un steak du frigo pour le mettre direct dans la poêle. Donc du coup, on est à température d'une vingtaine de degrés. Et quand on amène dans la cuisson vapeur, en fait, ça cuit directement. On va au cœur de l'aliment. Donc c'est ça qui est intéressant. Et du coup, toutes les matières grasses fondent. Le côté aromatique des épices se développe. Et en fait, on a une cuisson parfaite.
Ouais, parfaite. Je suis d'accord. Et Kalilou Terira, qui est un auditeur très fidèle du Goût du Monde et qui adore les brochettes, je peux lui dire avec certitude, Kalilou, faut essayer la vapeur, vous allez adorer les brochettes à la vapeur, c'est un winner, si on peut parler comme ça, pas vraiment, mais bon. Juste pour savoir également, les légumes racines, vous m'avez fait goûter un salsifis, pour tout ce qui est igname, manioc, dont on fait des semoules et tout ça, on est vraiment aussi dans cette même type de cuisson et ça se prête particulièrement aux légumes racines, la vapeur?
Oui, oui, j'ai les topinambours, voilà, tous ces légumes justement qui sont dans la terre, les carottes, le poireau ou quoi, vraiment, on a vraiment une conduction à cœur de l'aliment, on cuit plus en surface. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a tous les arômes, la patate douce, c'est très gourmand et on a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et vu qu'on ne mouille pas le produit en surface, on a un produit qui cuit avec son humidité naturelle. Parce qu'il y a de l'eau dans les produits, on y a de l'eau dans le végétal, et donc son eau suffit à lui-même.
D'accord, et y compris pour le riz, parce que vous cuisez le riz à la vapeur. Alors qu'est-ce qui fait justement que ce riz devienne aérien, qu'il devienne léger?
L'important dans le riz, c'est déjà de le faire tremper, comme dans toutes les céréales. Mais le riz aussi, c'est important. De le rincer plusieurs fois, comme ils font au Vietnam, justement, pour enlever les arseniques de surface et puis enlever certains produits. Et surtout, de les laisser tremper. Moi, je peux les laisser tremper une nuit, deux jours. Ça pose pas de problème. Comme ça, on hydrate la coque du riz. Et après, en cuisson, on mouille juste avec 1 cm d'eau à hauteur. Et le riz, en 20 minutes, il a absorbé juste le liquide qu'il fallait. D'accord. C'est comme si on faisait un riz pilaf avec un four. À part que là, on le fait à la vapeur.
D'ailleurs, André Tan a essayé le four vapeur, ça marche pas. Hein.
Non, non.
Il faut vraiment le vapeur, la tamis, l'eau qui hydrate, quoi.
Oui, parce qu'on mouille de suite. Donc, en fait, ces petites brioches et ces dumplings ou quoi, vous les mouillez de suite. Donc, il n'y a plus le même intérêt. C'est pas pareil.
Et ce qui est génial, c'est la quantité de pain et de galettes qui existent, justement, cuites à la vapeur. Au Mali, notamment, il y a un pain comme ça, cuit à la vapeur. On en a en Inde, on en a en Afrique beaucoup, en Érythrée. La galette de teff qui fait l'injera, dont on se régale. Qu'est-ce qui fait cet effet dans la vapeur, la réaction qui fait qu'on ait un effet justement élastique, un peu gonflé?
Parce qu'en fait, c'est l'hydratation. C'est qu'en fait, on n'est pas dans une chaleur qui est sèche, comme le four. Là, on est dans de l'hydratation. De toute manière, quand vous faites du pain à la maison, vous êtes obligé de mettre de l'humidité. Les professionnels, ils ont de l'humidité dans les fours. Mais quand vous faites, parce qu'il faut mettre de l'humidité, parce que l'humidité, c'est conducteur. Donc voilà, et ce qui permet que ces bulles d'eau se transforment en vapeur, comme sur le feuilletage ou quoi, permet que ça développe. Donc c'est pour ça qu'on a quelque chose qui gonfle.
D'ailleurs, dans votre livre, il y a des recettes de pain et des recettes de gâteaux, mais ça on va en parler. Mais d'abord, je voudrais juste que vous écoutiez quand on a eu Maurice Sacco avec nous en studio pour parler de sa cuisine. Tout de suite, on lui a dit « Ah, bah, la semaine prochaine, on fait vapeur » et voilà ce qu'il a répondu.
Alors nous, la vapeur, on l'utilise en cuisine de diverses manières. Donc d'abord, j'utilise pour le riz. Nous, on a un riz japonais qu'on pré-cuit, on fait comme une sorte de nigiri. Et donc, ça nous sert en fait à finir la cuisson, le boule, aux 3/4 de sa cuisson. Et ensuite, on finit la cuisson en vapeur, ce qui permet en fait d'avoir un condiment qu'on a à l'intérieur, de finir sa cuisson. Donc, on l'utilise comme moyen de cuisson déjà primaire pour ce riz, ensuite qu'on vient griller par-dessus. Et par la suite, je suis en train de retravailler la recette du pain à blo qu'on retrouve au Togo, qui est un pain vapeur. Et j'aimerais bien le mélanger avec la recette du bao pour avoir vraiment essayer de faire en sorte que ce pain à blo puisse être aussi... aussi fluffy en fait qu'un bao.
Voilà, le pain à bolo du Togo. À partir du moment où on a envie, là, le cuisinier est toujours à l'affût de nouvelles recherches, nouveaux goûts, nouveaux tout ça, Stéphane Gabrielli.
Oui, c'est ça, en fait. Il nous faudrait deux vies. Il nous faudrait une vie pour apprendre, pour échanger avec les gens, et une autre vie pour développer. Donc, moi, mes nuits sont très courtes. C'est vrai. Le problème, c'est que je suis boulimique. Donc, voilà. Donc, je prends la journée. Et surtout, moi, j'aime bien faire les essais parce que je veux voir si ça marche. Donc, voilà. Un écrivain, il écrit sur un livre, ça va. Mais moi, le problème, c'est que moi, il faut que je teste. Il faut que je cuise, il faut que je vois les durées, les textures, la matière. Pour moi, c'est important. C'est vivant, en fait.
Et ça vous parle du coup, cette cuisson-là du riz dont parlait Maury?
Bien sûr, ben oui. Comme quoi, vous voyez, on recoupe tout et à un moment donné, on a la même finalité en fait.
Vous faites aussi beaucoup de sauces, des sauces vinaigrettes incroyables et des sauces chaudes. Je pense notamment à la vinaigrette chaude au miel et au gingembre. À la vapeur, racontez-nous.
Oui, parce que ça permet de diluer un peu le miel et c'est surtout que ce qui est important aussi quand vous cuisez les légumes, surtout à la vapeur, c'est de les assaisonner à chaud parce que les pores du végétal sont ouverts, donc ça permet qu'il y ait une pénétration de surface qui soit plus intéressante. Donc faites des assaisonnements à chaud, même si vous les mangez froid après, c'est pas grave, mais au moins vous allez nourrir le végétal, c'est ce qui va être intéressant.
D'accord, donc, il y a le beurre clarifié aussi qu'on peut faire.
Oui, voilà. Bon,
à la vapeur.
Là, c'est du beurre clarifié, ce qu'ils appellent le ghee, mais on peut pas le faire à la vapeur parce qu'on monte pas assez en température. Ce qui est important, parce qu'on est un de quoi. Et donc après, le beurre ne tient pas. Donc c'est pour ça que là, on fait du beurre clarifié. Il y a aussi beaucoup de sauces vierges, parce que ce qui manquait, c'est la gourmandise, en fait. Donc moi, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est de la gourmandise et de donner la gourmandise sur la finalité du plat. Donc c'est pour ça. Et travailler simplement l'acidité, l'amertume, le gras. Donc pour moi, c'est trois critères qui sont importants et où on peut trouver des sauces assez intéressantes, comme la sauce saté avec le chou rouge, les cacahuètes, voilà. Il y a
la sauce vierge, avocat, agrumes, la citron vert, mangue aussi. Qu'est-ce que c'est qu'une sauce vierge en deux mots?
Une sauce vierge, c'est une sauce qui est non cuite, on ne la chauffe pas, et qui a de l'acidité, de la matière grasse.
D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important aussi pour accompagner, en fait, pour se marier avec tous ces légumes vapeur et tout ça, pour donner un peu de peps et de...
Oui, c'est ça. Et puis ça va avec le poisson, surtout, ça va avec la raie, il y a la dorade ou quoi. C'est qu'on va amener de la gourmandise, en fait, sur un plat. Et on n'a pas besoin d'aller mettre du beurre, d'aller mettre de la crème, voilà, d'aller mettre d'autres produits qui viendraient masquer. On va amener de la fraîcheur, du liant et du visuel aussi, parce que les sauces vierges, on peut mettre des fruits, on peut mettre des grenades, on peut mettre de la mangue, on peut mettre du kiwi. Mmh. Voilà, on va amener du visuel, parce que ce qui est important... Pour casser ce mot vapeur en disant c'est un produit qui n'a pas de réaction de Maillard, qui n'a pas de croûte.
La réaction de Maillard, c'est la deuxième fois que vous le dites, c'est mal. Qu'est-ce que c'est la réaction de Maillard?
Donc la réaction de Maillard, c'est qu'en fait, quand on va amener une croûte, une caramélisation de surface, avec les sucres et les protéines de l'aliment, sur une viande, voilà, sur un végétal aussi, on peut l'amener. Donc voilà, mais c'est pour ça, mais c'est pas très sain par rapport à la santé, parce qu'on travaille sur des graisses brûlées.
D'accord.
Donc voilà.
Alors, quiz, du coup, je fais ma cuisson vapeur, et ensuite, comme j'aime bien quand ça croustille un peu, je mets dans une poêle, et il y a une réaction qui se crée, et ça croustille.
Oui, bien sûr, on le fait après, et bien sûr qu'il y a des gens, parce que les maîtresses de maison en avaient marre, quand il y avait une côte de bœuf qui arrivait à la maison, le mari disait « direction barbecue », et non, écoute, j'ai vu le livre du chef Stéphane Gabrielli, je te promets, il fait la côte de bœuf.
La côte de bœuf.
À la vapeur.
À la vapeur, et moi aussi j'étais étonnée, et d'ailleurs je vais la tester, cette côte de bœuf. Alors, ce qui est bien, c'est qu'une émission quand même, quand on parle de vapeur, il faut rappeler que c'est possible d'avoir de la douceur à la vapeur, et donc du sucré. Et d'ailleurs, les Mauriciens le connaissent très bien parce qu'ils ont un petit gâteau à base de noix de coco et de farine de riz qui s'appelle le poutou, comme un baiser. Donc ça, c'est à l'île Maurice. Et vous nous faites un nuage chocolaté.
Oui.
Ainsi qu'un autre cake au chocolat et à la fève tonka. Alors parlez-moi de ce nuage chocolaté qu'on s'envole avec la vapeur.
Ben, c'était très simple en fait. Hein. Il fallait que je fasse... J'aime bien faire les gâteaux, les pâtisseries, diminuer le sucre parce que les pâtisseries sont trop sucrées ou quoi. Donc on toujours travailler dans quelque chose de naturel. Et du coup, j'ai l'idée de cette recette de base, de la mettre à la vapeur, de réduire le taux de sucre, réduire les œufs, de travailler des farines sans gluten aussi. Avec la farine de châtaigne, il y a une version sans gluten parce que bon, il y a des gens qui ne mangent pas de gluten, mais c'est pas pour ça qu'on en leur prive de gourmandise. Donc du coup, c'est avec ma femme qui m'a proposé cette recette et elle avait allumé le four, parce qu'il y a un four à la maison, et je lui dis, bah non, on va aller dans le vitaliseur. Et du coup, on l'a fait dans le vitaliseur. Et voilà, c'est un nuage parce qu'on a vraiment quelque chose de moelleux, de gourmand. Voilà, il a été fait des milliers de fois et les gens, ils n'en reviennent pas. Donc,
Bon, on est d'accord qu'on pourra partager cette recette alors sur la page du Goût du Monde, parce que ce nuage chocolaté, je pense, va faire des heureux. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir ouvert avec nous tout ce pan de la gastronomie. Deux questions pour terminer. La première, peut-être une question de piège. Est-ce que dans la gastronomie française, celle avec les ors, avec les grandes lettres, est-ce qu'il y a un plat comme ça ou un dessert qui soit cuit à la vapeur et qui ait marqué un petit peu la gastronomie française?
Oui, il y a un plat un peu qui est emblématique. On va dire quand on cuit une volaille dans une vessie, en fait, elle va cuire dans la vapeur du bouillon. Donc voilà, donc qui reste le visuel, mais il y a une vapeur à l'intérieur et qui va cuire cette volaille.
D'accord, donc voilà, hop. Et les œufs à la neige, on est d'accord, on n'est pas du tout dans de la vapeur. Ou on pourrait les faire à la vapeur.
Bien sûr, ça marche.
Donc l'île flottante avec les œufs à la neige, cuit à la vapeur.
Ouais, voilà.
Et même la sauce, on peut la cuire à la vapeur,
oui,
également.
On peut cuire une crème anglaise au bain-marie, donc on peut utiliser la cuve de notre vitaliseur comme bain-marie. Donc ça marche.
On peut tout faire.
Une seule casserole qui va être le centre de votre cuisine. Vous oubliez tout, voilà, dans vos placards et vous avez juste ça.
Poêle et autre chose. Un vitaliseur, un couscoussier, un panier en bambou et vous êtes sauvé.
L'autre chose qui est importante que je voulais dire aussi, où on est justement, où on pense à l'économie d'énergie, c'est l'eau. C'est qu'en fait, l'eau peut être utilisée du salé au sucré. Voilà, c'est-à-dire que la vapeur n'est pas conductrice. Donc, c'est-à-dire que quand je fais cuire de la viande ou des légumes, je peux finir avec un dessert avec
la même eau.
Et on peut travailler, moi j'ai des amis qui travaillent sur des bateaux privés. Des fois, ils ont l'eau salée, bien sûr, mais des fois, ils ont des eaux souillées. Mais ils peuvent quand même cuisiner avec.
Oui, voilà. Parce que c'est très important de rappeler. Et même si vous voulez faire les malins et mettre plein d'épices et d'aromates dans l'eau, ça ne sert à rien.
Non, ça ne sert à rien.
On est d'accord.
Ouais, voilà. Désolé.
Ne gâchez pas vos épices dans l'eau pour la vapeur.
Non, utilisez dans vos produits à mariner en amont ou quoi, ou dans vos sauces vierges en finalité, mais ne les mettez pas dans l'eau.
Et on ne sale pas.
Non, absolument pas. Si je sale moi juste les viandes, sur la côte de bœuf, sur le magret de canard, sur les volailles, parce qu'en fait, le sel permet à l'eau et aux toxines de s'évacuer vers l'extérieur et la vapeur va être conductrice, ça va permettre d'aller plus vite au cœur de l'aliment.
D'accord. Dites-moi, Stéphane, on a l'habitude de terminer cette émission comme mot de la fin et goût de la fin avec un ustensile. Il y a un ingrédient. Alors là, j'ai presque envie de rigoler. Hein, l'ustensile.
L'ustensile, c'est le cuiseur vapeur.
Un couteau. Ah non.
Non, c'est le cuiseur vapeur. C'est vraiment ce qui a révolutionné. Enfin, moi qui, depuis 5 ans, me donne des nuits courtes. Voilà, je trouve que c'est... À chaque fois, c'est un jeu d'enfant. Quand moi, j'ai un nouveau produit que je le mets à cuire à la vapeur, c'est une découverte à chaque fois. J'ai les yeux qui clignotent et je peux pas. Il me tarde vite de rentrer à la maison pour voir comment il va être.
Pour essayer le poulet entier, c'est bon, ça marche. La côte de bœuf, ça marche. Tout marche en réalité.
Oui, et puis le poulet, mais j'étais vraiment étonné parce qu'en fait, le poulet du dimanche, moi je viens du sud-ouest, donc c'est la chose sacrée. Personne ne touche le poulet du dimanche, rôti au four, la peau caramélisée, voilà. Mais là, je peux vous dire qu'il y a des gens dans le sud-ouest qui ont essayé le poulet à la vapeur et ils ont dit c'est exceptionnel. Voilà, ça vaut le coup.
Donc voilà, nous, on aime le poulet sur tous les continents, donc c'est ça qui est génial. Bon, un ingrédient quand même, est-ce qu'on peut en distinguer un?
Ouais, la pomme de terre. Enfin, moi, je suis un fanat des pommes de terre et je trouve que la pomme de terre, le plus simplement possible, j'aurais pu faire 100 recettes de pommes de terre. Ça a le goût, on a le goût de la pomme de terre. On va chercher des pommes de terre avec des goûts de noisettes, différentes saveurs. Et la pomme de terre, pour moi, c'est fabuleux.
Et ben voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, surtout Clémence, de m'avoir invité.
Ben non, c'était un plaisir, le goût du monde. Donc se refermer, peut-être se refermer cette émission, puisque cette vapeur a envahi le studio, donc on va rester entouré de cette vapeur. Moi, j'adore cette idée. En tout cas, on a fait une émission sur les nuages. On était également un peu là-dedans, dans ces volutes-là. Merci beaucoup, Stéphane Gabrielli. Donc, je rappelle que Plat Gourmand Vapeur Douce est publié chez Albin Michel. Montrez-nous un petit peu la vapeur de chez vous. Quel goût a-t-elle et quelle tête a-t-elle? On sera ravis de les partager. Merci beaucoup à Nordine et à André. On mettra également les adresses qui vous permettront de les retrouver. Si vous aimez nous écouter, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée. Je vais de mon côté tenter le nuage chocolaté, c'est promis, avec une petite photo sans doute ce week-end et une côte de bœuf. Alors ça, c'est sûr, voilà. Moi, j'ai faim maintenant, j'ai un peu mangé, mais ce n'était que le début. En tout cas, à tous, merci de votre fidélité. On vous embrasse bien et on vous dit à la semaine prochaine. Mijotez rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.
Tout à l'heure sur RFI.